1 Thessaloniciens au chapitre 5. On va lire les 11 premiers versets. Pendant que vous tournez là, je vous lis le verset avec lequel on a commencé la semaine dernière. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. On a commencé avec ça la semaine dernière, cette bienheureuse espérance. Et là, aujourd'hui, on va regarder, toujours dans la série, petite série, c'est deux messages, là, sur la deuxième venue de Jésus. On va voir l'imminence de son retour. Regardez bien à partir du verset 1, tout le monde est là, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Quand vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Et je pense que ça va pas être le premier épître à l'église de Saint-Augustin, parce que c'est ça. C'est, n'est-ce pas, qu'on s'exhorte réciproquement, s'édifier les uns les autres, et j'espère que c'est ce qu'on fait et qu'on grandit là-dedans. On regarde la question du retour de Jésus-Christ. La semaine dernière, on a regardé un aspect. Aujourd'hui, on en regarde un autre. La semaine dernière, c'était vraiment plus l'idée ce qui précède le retour du Seigneur. On a vu que personne ne connaît la date ni l'heure, mais le Seigneur en a donné les circonstances. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a regardé ça. Et savez-vous que, de façon générale, pour moi, ça montre comment c'est proche à ce point-là. Même dans le monde non chrétien, en général, les gens savent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, puis sans que les gens disent « Ah, c'est le retour du Seigneur qui s'approche » et tout ça, ils voient qu'il y a quelque chose de portée internationale qui montre que c'est pas comme ça devrait être. On a vu aussi la semaine dernière que le prochain événement, puis 100%, c'est pas ça qui est plus important, c'est ce que la Bible dit. Jésus a parlé du comme au temps de Noé, comme au temps de Sodome et Gomorre. On a, vous rappelez, on a vu ça la semaine dernière. Aussi, on a vu la semaine dernière que le prochain événement majeur, la prochaine case dans le calendrier de Dieu, c'est
l'enlèvement.
Yes. Et donc, on a conclu après ça, bon, avec des implications pratiques de ça. Vivre à la lumière de l'éternité, vivre en rachetant le temps dans ces jours mauvais. On peut aussi se dire, est-ce que dans l'œuvre de Dieu, je suis en train de faire avancer les choses ou je les bloque? Est-ce que j'ai cette vision spirituelle des choses ou je suis simplement pris les deux pieds dans le terrestre? Bon, on peut donner toutes sortes d'applications, mais bon, pour cet après-midi, j'aimerais qu'on voit, OK, une fois qu'il y a l'enlèvement, qu'est-ce qui arrive après? Pour ceux qui sont enlevés, qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qui arrive avec eux autres et tout ça? Alors là, je pose la question, selon vous, ça serait quoi? Il y a l'enlèvement, puis là, qu'est-ce qu'on fait?
On s'en va, le Seigneur.
Vous allez peut-être un peu trop vite, il n'y a pas quelque chose avant. Puis toi, c'est quoi tu veux demander?
Le jugement.
Les couronnes.
Les tribulations.
Le tribunal de Christ. Puis là, juste avec les mots que vous donnez, là, je vois qu'il peut y avoir de la confusion. Parce que là, le jugement, le tribunal de Christ, ce n'est pas un jugement.
Non, mais c'est
cet
après, ça, le jugement.
Non, ouais, en tout cas, ouais, ben, là, il y a le jugement des impies, mais pour les sauver, c'est le tribunal de Christ. Et là, on va parler de ça. Bon, puis là, on dit, ouais, mais on sait-tu chronologiquement, c'est tout après, puis tout ça. Ben, d'après ce qu'on comprend, c'est qu'on voit comment, dans le fond, c'est quelque chose qui... mais regarde, je vais vous lire les passages. D'abord, on lit dans Romains 14:10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ou pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 9 et 10, ça dit « C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » On va vraiment voir en détail c'est quoi cela. Je ne vais pas trop m'étendre maintenant dans mon introduction parce qu'on va voir exactement ce qu'il y en est avec ce fameux tribunal de Christ. Mais on voit que ça aussi, tout comme l'imminence du retour de Jésus, de l'enlèvement, aussi le tribunal de Christ doit avoir un but incitatif dans notre vie de vivre pour ce qui est éternel, non pas pour ce qui est terrestre. Vous allez voir ce qui va être l'objet de ce tribunal nous incite à ça. Et aussi, savez-vous, ça doit nous amener à... Je sais pas, vous connaissez l'expression, savez-vous qu'on doit aimer son avènement? Me croyez-vous? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Puis on va voir les couronnes à la fin du message. Okay? Fait que là, je vous mets un peu la table sur ce qu'on va regarder. Puis, comme je l'ai dit aussi la semaine dernière, il y a un effet bénéfique sur ceux qui gardent ces vérités dans leur cœur, qui les ramène, qui méditent dessus, parce que ça dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Et ça, c'est une méditation, c'est une espérance vivante, c'est-à-dire savoir que, OK, ici sur terre, c'est passager. Puis pour le dire dans les mots de Paul, savoir qu'on peut comparer les souffrances du temps présent au poids éternel de voir que ça va donner. C'est vraiment mettre les choses dans leur perspective éternelle. Oui, sur cette terre, ça fait dur, ça tourne pas rond, il y a toutes sortes de choses qui marchent pas. Mais au bout du compte, le meilleur est à venir. On a cette espérance en nous et on se purifie nous-mêmes à la lumière de ça. Et écoutez aussi 2 Corinthiens chapitre 2, verset 9, encore en introduction. Là. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça dépasse même l'entendement. Vous avez déjà posé des questions. Ça va être comment au ciel? Tu sais, on a déjà pas de souffrance, pas rien. Puis là, on va-tu se rappeler qu'on a souffert? Je sais pas tous les détails, mais des choses que Dieu a préparées, puis même pour on en joue déjà en ce moment pour ici-bas, l'espérance qu'on a, puis l'œuvre de Dieu dans nos vies. Mais certainement, ces choses-là ont un effet bénéfique sur nos vies lorsqu'on médite dessus. C'est des vérités bénies qui sont porteuses de beaucoup d'espérance. Et maintenant, juste avant de développer un peu plus sur le tribunal de Christ, on peut se demander, OK, le tribunal de Christ, c'est pour qui le tribunal? C'est qui va être au tribunal de Christ? Plus précisément, seulement les croyants, OK? Les chrétiens, OK? Pourquoi? C'est quoi qui va se passer? Récompense, c'est ça, c'est... Le mot jugement, j'aime pas dans le sens que on peut voir ça, tu sais, Christ a été jugé à notre place, mais où est-ce que on va rendre compte? On va rendre compte de comment qu'on est. C'est le mot que la Bible utilise, qu'on a lu tantôt. On va comparer devant le tribunal de Christ pour rendre compte de ce qu'on a fait étant dans notre corps, soit le bien ou le mal. Et on va définir ça dans un instant, mais d'abord, il faut comprendre le tribunal de Christ, c'est pour les sauver. Et ce n'est pas pour dire t'es sauvé, t'es pas sauvé. C'est pour les récompenses, c'est pour ce qu'on a fait étant dans notre corps. OK? Puis je dirais que ça doit nous aider aussi à mettre les choses en perspective, de ne pas prendre les choses à la légère, que tout ce qu'on fait compte devant Dieu et a une portée éternelle, puis qu'on va avoir aucune gloire parce que toutes ces couronnes-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va toutes les jeter au pied de Jésus. Ça va tout être à Dieu la gloire, comme on l'a chanté ce matin. Puis vous allez vraiment comprendre pourquoi, parce que je vais vous expliquer sur la nature de ce qui va être jugé. OK? Donc, on plonge. On va voir à quoi s'attendre après l'enlèvement. D'abord, pour ne pas être confus lors de son avènement, Il y a des choses qu'on doit savoir. Ça nous dit dans 1 Jean 2,28, ça dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » Mais ça veut dire quoi, là? Ça dit ici que nous demeurions, demeurer en lui. Ça veut dire quoi, demeurer en lui? Une autre référence ici, ça dit dans 1 Jean 3,24, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Ça veut dire quoi, demeurer en lui? D'abord, il y a le témoignage du Saint-Esprit qui nous témoigne qu'on est en lui, qu'on demeure en lui. C'est-à-dire que demeurer, c'est comme quand on habite chez quelqu'un, quand quelqu'un habite chez nous. Il y a cette communion, il y a cette relation, on se parle, on s'écoute, il y a cette interaction. Mais juste avant, dans le verset que je vous ai lu, celui qui garde ses commandements, garder les commandements de Dieu, on pourrait dire, ah là, il faut que je garde la loi, puis tout ça. En fait, on apprend dans Romains 8, 3, que lorsqu'on 8, 3 et 4, que lorsqu'on marche par l'Esprit, parce que c'était impossible pour nous de garder les commandements, la chair la rendait sans force, que lorsqu'on marche par l'Esprit, c'est là qu'on accomplit la loi de Dieu. C'est pas nous, c'est Christ en nous. Garder ses commandements, c'est pas un fardeau qui est mis sur nos épaules, c'est quelque chose que la vie, que Jésus dans sa vie, fait en nous. Okay, c'est lui qui les a gardés, c'est lui encore, quand on marche par l'Esprit, on n'accomplit pas les désirs de la chair, et comme ça, on aime, on marche selon la vérité et l'amour, et ainsi, on accomplit la volonté de Dieu. C'est ça que ça veut dire de demeurer en lui. C'est ses paroles qui demeurent en nous, on demeure dans son amour. C'est cette relation, c'est cette interaction avec le Seigneur qui est là, qui est toujours là. Comme dans un mariage, lorsqu'on est marié à l'époux, c'est une relation indissoluble. C'est le Seigneur lui-même qui nous a pris pour son épouse, l'Église de Christ, et on est scellé, on lui appartient, et c'est lui qui nous tient. Et maintenant, il faut comprendre que c'est ça. Ce n'est possible, ce commandement ici, c'est-à-dire celui qui garde ses commandements demeure en lui. Ce n'est possible que par la grâce de Dieu, que par Christ en nous. Parce que si on se lève le matin, on va dire, moi je vais essayer vraiment fort de garder les commandements de Dieu, on va être découragé parce que ça ne va pas arriver. Puis, je veux dire, ça va être une vie de défaite. Là. Est-ce que Dieu nous demanderait quelque chose qu'on n'est pas capable de faire? Non, mais il va faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Pas par notre passivité, mais comme on l'a vu ce matin, par la foi. Lorsqu'on se confie en Dieu, que sa parole demeure en nous et qu'on, par la foi, on s'y confie, puis on marche avec la direction de Dieu dans notre vie en se soumettant à sa direction, ben c'est comme ça qu'on demeure en lui et qu'on grandit dans la grâce de Dieu. Donc ça, c'est une première chose. Pour pas être confié à son avènement. Donc, parce que moi, j'ai déjà entendu des messages. Ça, là, le retour du Seigneur, c'est une bonne façon, là, où est-ce que les chrétiens, les pasteurs, ont mis tout leur peuple sur leur guilt trip. Ah, là, si t'es pas fin, là, le Seigneur va te faire passer par le feu, tu vas sortir en bobette, puis ça va aller mal pour toi. Non, mais j'ai déjà entendu ça. Hey, ça, le jugement, là, ça, c'est quand on passe au travers du feu, puis qu'à la fin, là, on sort par la peau des dents, puis on est au ciel, mais on est dans un petit coin, là. Non, mais souvent, ça a été l'image, puis là, si t'es pas un bon petit chrétien, le Seigneur sera pas content, tu vas aller au tribunal de Christ, tout le monde va rire de toi, puis ils vont faire des grimaces demain. Mais, je suis caricatural, là, il faut bien vous faire rire un peu, parce qu'on s'endort le dimanche après-midi, là, mais c'est un peu souvent la teneur qui a été donnée. Mais j'aimerais qu'on voit, OK, c'est quoi le tribunal de Christ, à quoi qu'il faut s'attendre, puis c'est quoi toute l'idée de ça? Premièrement, quand on parle de tribunal de Christ, savez-vous c'est quoi ce long mot-là? Dans le tribunal de Christ, là. Hein? Ouais, en tout cas. Toute cette grosse expression-là, là, en grec, c'est bema. B-E-M-A. OK? Et ça, le bema, là, c'est un mot grec qui réfère à une plateforme où les magistrats, là, les romains, là, les magistrats romains, la haute gomme, là, les dirigeants, ils étaient assis là, puis ils prenaient des décisions, puis ils donnaient des sentences. OK? Par exemple, dans Matthieu 27, excusez, il faut ouvrir ma page de bord. Dans Matthieu 27, 19, on dit pendant qu'il siégeait au tribunal, pendant qu'il siégeait au Béma, sa femme lui dit, puis là c'est Hérode, Pilate, qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Fait que lui était là, puis il siégeait au Béma, OK? Et là, Paul, lui, comme souvent on voit dans le Nouveau Testament, les gens prennent des concepts qu'il y avait dans leur époque, puis ils les sanctifient pour les amener avec la vérité de la parole de Dieu, puis le Seigneur. Je vous donne un exemple. Les Grecs cherchaient la connaissance, puis l'homme idéal, puis tout ça. Ils prennent ces vérités-là, puis ils disent, la connaissance parfaite, c'est connaître l'homme idéal, c'est Jésus-Christ. Puis, en tout cas, toutes sortes de choses de même. Mais là, le Béma, eux autres, ils ont amené le concept. Ah, puis en passant aussi, Paul utilise le concept du Béma avec l'athlétisme. Puis c'était un peu la même affaire. T'avais le jury athlétique, là. Tu sais, qui disait si t'avais couru selon les règles. Tu sais, Paul, il dit, si tu cours selon les règles. Ben ça, c'était les gens assis au Béma, là, qui voyaient la course, là. Si quelqu'un avait triché, avait fait une jambette à quelqu'un, ben lui, il passait pas. Il arrivait là, puis il avait pas sa couronne de laurier. Ben, c'est ce qu'il donnait aussi. Okay? Toutes des images, dans le fond, à laquelle on est familier, mais juste pour vous ramener les choses à l'esprit. Donc, l'image du Béma, c'est quoi? C'est pour recevoir une récompense ou la perle si on n'a pas couru selon les règles. Parce que le gars, il dit, hey, je suis premier, moi, mais là, t'as pas couru selon les règles. Il l'aura pas. OK? Et donc, c'est ça le concept. Donc, le tribunal de Christ, c'est un temps où est-ce qu'on est face au Seigneur, où est-ce qu'on va avoir faire au Seigneur en tant que ceux qui ont couru dans la course, qui ont été dans l'arène. Et l'accent est mis sur les récompenses, même si le concept du feu est là. Parce que ça dit, certains seront sauvés, mais comme à travers du feu. OK? Puis là, ça dit, bon, tantôt, je vais vous lire le passage, mais dans le fond, ce qu'il faut voir, je vais vous lire ici, 1 Corinthiens 13, ce jour fera connaître parce que ce qu'est le... Non, excusez. Car le jour là fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu, puis ça, c'est ça parle du tribunal de Christ. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Toute l'idée du feu, là, premièrement, c'est pas pour dire je suis dans le châtiment de Dieu. Non, c'est pour éprouver. C'est un feu qui est pur. Parce que ça parle de trois matériaux, le chaume, le bois, puis le foin versus l'or, des métaux précieux qui passent le feu. Donc, l'idée du feu, c'est un feu purificateur. OK? Et donc, l'idée ici, quand ça parle de l'œuvre, ça dit, c'est le mot là, c'est opioïs, ça réfère à la qualité ou la sorte de quelque chose. Et l'idée, c'est quelle est l'œuvre de chacun ou c'est quoi la qualité de cette œuvre? Ça veut dire que au tribunal de Christ, on ne va pas être jugé sur la quantité de ce qu'on a fait, mais sur la qualité. Puis là, attends, là, tu vas tout me mêler, je ne vais pas prendre ta question. Parce que là, je suis en train de donner une explication, puis sinon je vais me mêler. Peut-être tantôt, là, peut-être à la fin de tout. Garde là ta question. Donc, pas sur la qualité, mais la quantité. Puis là, c'est là, c'est passé le cœur. Je veux vraiment vous expliquer ici. C'est quoi qui va faire la qualité de mon œuvre devant le Seigneur? Ça encore, j'ai entendu des gens. Ah, t'as des bons motifs, là. Tu sais, t'es sincère, puis t'as fait ça pour le Seigneur. Ben là, c'est beau, ça va passer. Mais là, si t'avais pas le cœur dedans, puis tout ça. C'est quoi, je pense, ça tombe à court un peu du critère de Dieu. Parce qu'est-ce qui va faire la qualité d'une œuvre devant Dieu? En fait, ça peut être une œuvre morte, ou ça peut être du fruit. Quoi la différence? C'est la vie de Dieu dedans. Autrement dit, quand on va passer devant le tribunal de Christ, ce qui va brûler, c'est ce qui est de nous autres. Même si c'est des bonnes choses qu'on a fait, tout ça, puis la seule chose qui passe le feu, c'est la vie intarissable de Christ. Autrement dit, ce qui va passer, là, c'est ce qu'on a fait, c'est pas ce que nous on a fait, c'est ce que Christ a fait en nous. C'est ça qui a une valeur éternelle. C'est pas comme, hey, moi je suis le chrétien le plus motivé de la gang, puis là, tu sais, moi, là, vraiment, j'étais sincère. Là. Mais tu peux faire ça bien sincèrement, mais que c'était toi qui le faisais. Ça ne passera pas dans notre feu. C'est périssable. Mais c'est tout ce que Christ a fait à travers nous, c'est pour ça que ça peut être La prière, ça peut être des paroles, ça peut être avoir écouté quelqu'un, ça peut être... Des fois, on dit, ah, ça, c'est les gens qu'on a amenés à Christ. Ben, ça rentre là-dedans, mais c'est certainement pas juste ça. Tu sais, souvent, tout ce concept-là, souvent, ça a été réducteur. Ah, si tu vas passer au travers du feu, là, c'est amener du monde au Seigneur, encore une bonne façon de manipuler le monde. Hey, là, tu veux passer, là, tu veux pas arriver à avoir honte à son événement, faut que tu amènes du monde au Seigneur, sinon, tu viens de Christ, tu vas...
C'est pas nous autres.
Tu vas arriver là avec plus rien, OK? Non, c'est tout le concept. On a fait de loger le jugement, nous autres, l'humain. Non, c'est ce que Christ a fait en nous. C'est ça qu'une valeur, pensez-y, c'est ça qu'une valeur éternelle. C'est la seule chose qui a une valeur éternelle. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça qui va être jugé au tribunal de Christ. C'est pas ce que moi j'ai fait, c'est ce que Christ a fait en moi. C'est pour ça que toutes les couronnes, on va les prendre, on va pas dire, hey, parce que pensez-y maintenant, ah moi j'ai fait ça, j'avais un bon motif. Ah mais là, je peux bien la garder ma couronne, parce que c'est moi qui l'ai fait, puis j'étais plus motivé que l'autre à côté. Et non, on va toutes les jeter au pied de Christ, parce que c'est tout ce que lui a fait à travers nous autres. Voyez-vous comment ça se tient, puis c'est pas comme un concours du plus motivé, puis du plus beau, puis de la plus fine, puis... Non. Et donc, il faut comprendre ça, c'est très, très, très important. Il faut comprendre, bon, l'accent n'est pas sur la quantité, mais la qualité. Puis ce qui détermine la qualité, c'est Christ lui-même. Maintenant, souvent on pense, si on pense au tribunal de Christ, à quoi qu'on pense? Dès tantôt, ça peut être quelque chose qu'on a bien peur, qu'on a peur que ça arrive, puis tout ça. En fait, c'est sûr que c'est certain que si je suis nonchalant, si je prends pas au sérieux ma marche avec Dieu puis tout ça, ça va être comme dans le verset qu'on a lu. Je veux dire, je vais avoir la honte d'être éloigné de lui lors de son retour. Je vais être sauvé pareil puis tout ça. Mais qu'est-ce qui peut faire que j'anticipe et que j'aime son avènement du côté positif? OK? Mais c'est quand ma communion avec le Seigneur. Elle est vraie, elle est douce, elle est authentique. Pourquoi? Ça, c'est la vie de Christ qui est entretenue, qui est soutenue dans ma relation avec lui, dans mon quotidien. Une autre chose aussi, c'est que quand on comprend ça, vivre à la lumière des choses éternelles, tout ça, puis un jour on va faire face à Dieu, on accepte bien le châtiment de Dieu, on accepte les épreuves. Les épreuves, c'est pas toujours du châtiment. Mais le châtiment, c'est très souvent une épreuve, par contre. Parce que ça le dit dans la Bible, on voit ça, c'est pas toujours jojo sur le coup, mais après ça, ça donne hein, un fruit paisible de justice. Ça nous amène à le voir autrement. L'épreuve, les choses qui peuvent nous arriver, parce qu'on voit, il y a un poids éternel de gloire rattaché à ça. C'est pas en vain qu'on travaille, qu'on souffre dans le Seigneur. Toute la question de la productivité. Ah là, j'espère que j'étais assez productif pour le Seigneur. C'est quoi? Tout le poids s'enlève de nos épaules quand on voit que non, c'est pas à nous de le faire. C'est à laisser Christ le faire en nous. Ça change complètement la perspective. Là, c'est plus moi qui essaye. Les femmes hier, là, moi j'ai écouté parce qu'elle s'est pratiquée. Là. C'était drôle. Elle s'est pratiquée, on dit tout seulement. Elle dit j'ai besoin d'une demi-heure. Ça a duré 2 heures. Ça pratique. Puis là, on a fait des jokes, j'ai rien. Là, je dis, est-ce que tu lis jusqu'à ce que mort s'en suive? En tout cas, on faisait des jokes demain. Je dis, pauvre madame, demain, ils vont tous. S'ils réussissent à survivre, ils leur donneront une médaille. En tout cas, on a ri. C'est ça l'essentiel. On va pas être jugé comme, tu sais, comme dans une entreprise, on juge ta productivité et tout ça. On juge, est-ce que t'as. Non, c'est vraiment. Est-ce que tu m'as fait confiance? Est-ce que tu m'as laissé faire? T'as-tu embarqué dans ce que moi je fais? Comprenez-vous comment que là, le tribunal de Christ, ça nous donne une autre perspective? C'est ça, courir selon les règles. C'est Dieu qui a établi les règles. C'est pas. Tu sais, puis il dit, c'est pas par la puissance, c'est pas par notre bonne volonté, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est ça, les règles du jeu spirituel. Vous savez-vous quoi? Tu sais, des fois, ça aussi. Je vous dis, là, il y a tellement d'exemples qui me viennent à l'esprit avec ça, parce que souvent, j'ai entendu des messages manipulateurs par rapport à ça. T'as-tu manqué des opportunités de témoigner, puis le Seigneur voulait que tu témoignes, puis là, tu te sens mal. Puis c'est vrai, on se sent mal. Je veux dire, souvent, tu sais, ça arrive, le Seigneur dit, ouvre la bouche, tu l'ouvres pas, puis. Mais comment voir les opportunités? Ça peut être quelque chose que moi, je me mets sur les épaules, puis tout ça, ou voir l'opportunité que Dieu fait. Si Dieu veut que je parle à lui, là, c'est-tu quoi? Ça veut dire que Dieu fait un travail, puis je vais rentrer dans le travail de Dieu. Pourquoi j'aurais peur? Pourquoi j'hésiterais? Hey, merci Seigneur, je peux. Voyez-vous, ça nous fait, au lieu de dire, hey, là, faut que tu parles, sinon t'es pas un bon chrétien, puis là, Dieu va te regarder de travers. Non, c'est Dieu qui t'invite. Hey, je travaille ici, là. Ça te tente-tu d'embarquer là-dedans? Hey, oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Demain, on a une chance, demain, c'est quand même spécial. On va voir un monsieur que le Seigneur travaille dans son cœur, il n'est pas encore sauvé, puis on s'en va l'aider dans une job qu'il a à faire, puis on va y témoigner du Seigneur parce que c'est le Seigneur qui a ouvert cette porte-là. On rentre dans quelque chose que le Seigneur fait. Pas pour toi, frère, puis je sais, oui, en fait, je le sais, là. C'est excitant, n'est-ce pas? On dit, yes, j'ai hâte de voir, hein? Le chant d'influence, j'ai dit, j'espère que tu es excité. Ah, là, t'as peut-être d'autres choses, je sais pas, là, mais bon. Peut-être qu'il ne faut pas poser la question de même sur le spot. Mais moi, ça me motive. Pourquoi? Parce que ça me dit, hey, ça, c'est Dieu qui fait quelque chose, puis il veut que j'embarque dedans. J'ai un appel, un frère qui m'appelle, hey, ça te tente-tu de témoigner, puis en plus, être payé pour? Qu'est-ce qui me sort là, avec témoigner? C'est parce que le gars, tu sais, il a son entreprise, puis il va nous payer pour la journée de travail, puis le gars, il est ouvert aux choses du Seigneur, puis tout, donc, gloire à Dieu. Une autre chose que, dans le fond, c'est pour juste vous montrer comment le tribunal de Christ remet toutes choses en perspective. Tu sais, des fois, là, dans nos vies, on peut voir, ben, moi, on parlait de ça pendant le dîner. Je veux dire, les relations humaines, c'est pas évident. Et que c'est compliqué. En fait, les relations humaines, je me demande, y a-t-il quelque chose de plus compliqué que ça? Je veux dire, on est compliqué nous-mêmes, puis là, t'en mets deux ensemble, ça fait deux compliqués, là, tu fais x2, c'est la complication. Là, tu prends une famille, t'en mets 4-5 ensemble. Hey, mon ami, là, le facteur de multiplication de la complication, c'est... Ça n'est dur à dire, demain, c'est compliqué. Mais, ça aussi, comment j'ai embarqué là-dedans, comment j'ai été par rapport à ça? Le Seigneur va pas nous demander, t'as-tu réglé les problèmes? Il va pas demander... T'as-tu les résultats? Non, le Seigneur, encore là, ça va être... M'as-tu fait confiance avec ce que moi, je voulais faire avec toi là-dedans? C'est ça la question. Parce que les relations, là, ça veut dire quoi? Tant que le péché va être dans le monde, ça ira pas comme il faut. C'est la triste réalité dans ce monde. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur, il s'est incarné. Je parlais de ça ce matin avec les visiteurs. Le Seigneur est venu, il s'est incarné. L'incarnation, là, c'est Dieu qui est venu dans le milieu même de notre misère puis de toute la scrapitude de l'humanité. N'est-ce pas? Et là, il est venu comme ça, ça dit plein de grâce et de vérité. Ben, ne sommes-nous pas le corps de Christ? Ne sommes-nous pas le sel de la terre, la lumière du monde? Ne sommes-nous pas ceux qui, dans les relations, justement, dans toute leur complexité, puis qui amènent l'espoir de Christ? Et là-dessus, j'ai retenu parce que malheureusement, ça peut arriver aussi dans l'Église, hein, qu'il y a des tensions. Mais si vous mordez, si vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et donc, faut qu'on garde ça à l'idée. Maintenant, pour terminer, j'aimerais conclure avec les fameuses couronnes. Puis je vous les donne en rafale. Vous pourrez faire vos propres recherches par la suite, mais on en compte 6 des couronnes, parce que comme je vous disais, c'est, on va être récompensé puis tout ça, mais dans le fond, ça va être tout à la gloire de Dieu, puis là, on va les regarder une par une rapidement pour conclure là. D'abord, dans Philippiens 3:10, ça dit: ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui. Hein, j'ai pas le bon verset. Ah, ok, non, excusez. Ah, c'est moi qui avais mal écrit ici. Ben, il y a une couronne qui a déjà été portée, puis qu'on est appelé à porter, mais qui n'est pas vraiment une couronne dans le sens des autres. C'est la couronne d'épines, la couronne de la souffrance. Puis devenir conforme à Christ dans sa souffrance. Tu sais, on dit, ah, les couronnes, c'est le fun, puis tout ça. Oh, la couronne d'épines fait partie des couronnes. C'est l'opprobre de Christ. C'est souffrir pour son nom. Être mal compris. Être rejeté. Aimer, pas être aimé en retour, être détesté en retour. C'est la couronne d'épines. Ensuite, il y a la couronne incorruptible. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour une couronne corruptible, mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible. L'idée ici de la couronne incorruptible, là, il ne faut pas nécessairement chercher « Ah, ça, c'est telle couronne. » C'est le concept de couronne, mais il va-t-il en avoir vraiment comme là, 5 et tout ça? Je vous ai juste relevé les passages qui parlent de couronne. Couronne incorruptible ici, ça parle, tu sais, dans le fond, pour ceux qui ont couru selon les règles, on peut dire que ça nous parle de fidélité, de loyauté envers notre Seigneur. Pour donner un exemple, là, savez-vous quoi? Un exemple évident, Shadrach, Meshach et Abednego, là, la couronne incorruptible, tu sais, c'est pas le genre de personne de même, comprenez-vous? C'est que, ils ont souffert, tu sais, Paul, puis tout ça, ils ont souffert, ils ont couru selon les règles, ils ont fait confiance à Dieu. Ils ont laissé Dieu agir dans leur vie. Ils n'ont pas essayé eux-mêmes de manipuler, d'arriver à leur fin. Ils n'ont pas résisté, ils n'ont pas insisté sur leur volonté. Ils se sont soumis, ils se sont pliés. Une autre couronne, écoutez bien, 1 Thessaloniciens 2:19. Quelle est en effet notre espérance, notre joie et notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Puis aussi dans Philippiens 4:1, c'est pourquoi, bien-aimés et très chers frères, vous êtes ma joie et ma couronne. Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. On peut dire la couronne de gloire, la couronne de réjouissance, parce que les deux fois, ça parle de joie. Vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne. Ça réfère dans le fond à cette joie, à cette gloire d'avoir... cette réjouissance qui vient du fait d'avoir été utilisé par Dieu, d'avoir rentré dans son travail. Tu sais, ici, ça parle à Paul qui parle de ses enfants dans la foi, hein, d'avoir conduit du monde au Seigneur, d'être investi dans des gens, d'avoir vu, d'avoir eu la joie de voir Dieu à l'œuvre à travers notre incarnation, à travers notre instrumentalité. OK, une couronne de réjouissance, couronne de gloire. Pas notre gloire, mais celle de Dieu, évidemment. Couronne de vie, deux endroits, la couronne de vie, Jacques 1:12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Ne crains pas, tu vas souffrir, voici ça c'est Apocalypse 2:10. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, vous aurez des tribulations de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie, on voit dans les deux, c'est vraiment pour ceux qui ont enduré la tentation, qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dans le fond, c'est la couronne de c'est paradoxal, la couronne de vie, c'est pour ceux qui ont même été à être prêts jusqu'à mourir pour leur foi, pour leur Dieu. OK? Parce que dans les deux exemples ici, c'est ça, c'est sûr, dans le genre, on dit l'épreuve. Ça peut être toutes sortes d'épreuves. L'épreuve ultime, c'est celle de payer de notre vie. Mais c'est ça. Ensuite, Paul nous parle de la couronne de justice dans 2 Timothée 4, 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, cette couronne de justice, c'est pour ceux qui ont aimé son avènement. Vous savez-vous quoi? Je pense qu'il y a un clin d'œil ici. Pourquoi ça s'appelle couronne de justice pour ceux qui ont aimé son avènement? Mais je pense que c'est tout simple. On vit dans un monde de pas de discret, en tout cas. Pas c'est qui ferme la porte, mais il ne ferme pas très discrètement. Non, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas grave. Pourquoi la couronne de justice pour ceux qui ont aimé son avènement? Parce qu'on vit dans un monde injuste. On vit dans un monde, tu sais, la justice n'est pas de ce monde. La vérité trébuche sur la place publique. Vous dire, il n'y en a pas de justice ici-bas. Mais savez-vous quoi? Attendre après Christ, notre justice, aimer son avènement, que lui, tu sais, je veux dire, lui, tout ce qui n'est pas correct, il va tout mettre ça correct. Donc, c'est pas juste attendre le Seigneur, c'est attendre le Seigneur juste, le Seigneur saint, qui va tout s'occuper des problèmes. Donc, aimer son avènement, c'est voir au-delà de tout ce qui ne marche pas, puis qui nous brise le cœur, puis de voir enfin... Il va y avoir justice qui va être rendue. Enfin, cette corruption, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. C'est ça l'idée d'aimer son avènement, c'est d'aspirer à cette justice parfaite qui va être établie par le Seigneur lui-même. Et finalement, J'ai dit la couronne de réjouissance parce qu'il y en a un autre qui est appelé la couronne incorruptible de la gloire. Voyez-vous qu'on... des fois, on joue dans des termes. Pour ça que je dis, c'est de dire qu'il y en a cinq. Et ça. Il y en a peut-être qu'il y a là-dedans qui s'entrecoupent. C'est juste, je vous donne les passages qui parlent de couronne. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre 2,5. Et ça, c'est dit à qui? À des pasteurs fidèles. Ben, je ne sais pas si c'est ça. C'est moi qui pousse, mais je veux dire, ce passage-là, c'est vraiment Pierre qui parle à des pasteurs. Il dit, moi, ben, je peux vous le lire au complet, le passage-là. Mais il semble qu'il y ait une couronne spéciale pour les sous-bergers. Puis regardez, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi... Aux anciens, c'est des pasteurs. C'est un autre terme pour pasteur. Les presbytéros qui sont avec moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ, participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu. Fait que c'est clair, ça parle de ceux qui s'occupent du peuple de Dieu. Le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte. Puis là, justement, il leur dit comment, tu sais, ça parle de c'est quoi avoir un cœur de pasteur puis ce rôle de pasteur, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant ceux qui sont ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant des modèles du troupeau. OK? Fait qu'après avoir tout dit ça aux anciens, comme lui-même étant un ancien, il dit, lorsque le souverain berger paraîtra, lorsque le boss des bergers, lorsque le vrai berger, le bon berger paraîtra, vous, les anciens, vous obtiendrez une couronne incorruptible de gloire. Donc, c'est pas en vain. Savez-vous quoi? Moi, je chéris cette couronne parce que je me dis, ça vaut la peine de payer le prix, d'être impopulaire, puis... Les deux dernières années, là, c'était pas des temps faciles pour être un leader de n'importe quelle sorte. Mais un leader spirituel non plus. Regardez en politique, quelqu'un, mettons, qui aurait voulu se tenir droit, là, ou les médecins, puis tu sais, il y avait toutes les ordres de tout, les ordres des médecins, les ordres des tribunaux, là, puis tout le kit. Tu sais, quelqu'un qui voulait vraiment, tu sais, être droit, puis tout ça, dans un rôle de leadership, c'était pas évident. Puis aussi, dans le rôle spirituel, ben justement, si... on regarde ça ici, on voit qu'encore là, c'est pas en vain. Le Seigneur en prend note. Puis ça va aller tout à la gloire de Dieu, puis on va pas regretter les sacrifices qu'on a faits. Si petit soit-il, comparativement à celui de notre Seigneur, mais c'est pas en vain. Amen? C'était-tu une question ou c'était un commentaire?
Non, un commentaire. Parce que j'ai bouché sur le verset les œuvres. Les choses qui brûlent au feu, là, dans le Corinthien. Tu sais, il y a des gens qui attribuent ça au purgatoire.
Mmh, ouais.
C'est le seul passage que certains, tu sais, passent tort pour faire ça. Là. Mais j'ai étudié ce passage-là, puis tu sais, des enseignants qui prêchaient là-dessus, puis j'ai trouvé ça intéressant que, des fois, on passe un peu au-dessus de ce qui est écrit, là, sans s'en rendre compte, mais tu sais, le feu est pas là pour la personne, là, qui éprouve. L'œuvre de chacun.
Ouais.
C'est pas les personnes qui brûlent, c'est l'œuvre.
Ouais, exactement.
Nulle part où ce qui est écrit.
Amen.
La personne brûle, c'est l'œuvre.
C'est vrai. Amen. C'est vrai. Ouais, puis ce qu'est l'œuvre de chacun, pas la quantité, mais c'est l'œuvre. Absolument. Ouais. Amen. Merci, frère, pour le partage. D'autres questions? Ben, je vais prier, puis après, ça va être à votre tour de prier. On te remercie, Seigneur, c'est ta parole qu'on a considérée, Seigneur. Merci que tu nous amènes toujours les yeux vers toi et tout ce qui est éternel. Et merci, Seigneur, que c'est pas en vain qu'on œuvre, qu'on souffre pour toi, Seigneur. Et en fait, c'est pas nous, c'est Christ qui vit en nous. C'est pas pénible à cause de ça, Seigneur. Merci que tes voies sont toutes bonnes, même sont bien plus élevées que les nôtres, qu'on comprend pas toujours, ça nous dépasse, Seigneur. On peut se reposer dans le fait que, même si on ne comprend pas tout, ce n'est pas grave, ça vaut la peine. Et tu vas en être glorifié, Seigneur. Donc, on veut marcher par la foi, on veut vivre à la lumière de l'éternité, oui, du tribunal de Christ. Qu'on comprenne bien bibliquement ce que c'est, parce que tu l'as donné pour notre édification, tu l'as donné parce que c'est quelque chose de beau. Merci pour ça, Seigneur. Bénis ton peuple qui est rassemblé ensemble. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen.